10h-11h, Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Speak Uni, ça veut dire spiritualité, culture et harmonie. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Ravi de vous retrouver une heure pour déconstruire ensemble les préjugés. Yacine Ilmit avec nous, bonjour Yacine.
Bonjour à tous, bienvenue, content d'être là parmi vous.
Voilà, fondateur de l'association OZES, institut de formation qui s'adresse aux cadres religieux.
Bien sûr, on accompagne les imams notamment pour apprendre le français et les institutions, et puis maintenant une formation pour les présidents d'associations de mosquées.
À nouveau, il s'appelle pasteur, c'est le pasteur Philippe Versel qui s'appelle nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de la mission populaire, est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors, je peux vous en dire plus, surtout que c'est une longue histoire qui démarre à la commune de Paris, donc une action protestante qui est issue donc dans des milieux populaires et qui travaille aujourd'hui toujours dans des milieux défavorisés et qui essaye donc de mener une action sociale et une présence et un accompagnement.
Commune de Paris, c'est quoi? C'est 1870.
Voilà, 1872 pour la 12. Création de la mission populaire.
Le rabbin Gabriel Agaï est avec nous, bonjour.
Bonjour, shalom aleichem wa rahman wa barakatuh, que la paix, la miséricorde et la bénédiction divine soient sur nous tous.
Vous rappeliez que vous êtes engagé dans le dialogue judéo-musulman depuis beaucoup d'années, enseignant, chercheur, philologue et paléographe, codicologue. Merci. Ismaël Mounir, bienvenue.
Bienvenue, bonjour, salam alaikum.
Imam conférencier, on vous retrouve sur tous les réseaux sociaux, donc...
Pas tous.
Si, presque.
J'ai démissionné de Snapchat.
C'est vrai?
Ouais.
Bon, mais sinon, il y a Insta.
Insta.
Ouais, YouTube.
Facebook.
Facebook.
Pour quelle raison, Ismaël, vous avez démissionné de Snapchat? C'est pas indiscret.
Parce que c'est prenant, les réseaux sociaux, donc il faut essayer d'avoir une gestion intelligente. Et aujourd'hui, sur Instagram, on propose, on nous donne la capacité de faire des stories. Donc c'est ce que je faisais sur Snap. Donc j'ai plus besoin je préfère tout canaliser sur Insta plutôt que me disperser.
Gabriel Agaï, vous êtes présent sur les réseaux?
J'ai une page Facebook, donc vous pouvez taper mon nom, vous verrez ma photo. Et,
c'est une belle photo
vous,
d'ailleurs.
Vous me reconnaîtrez d'ailleurs par rapport à ma voix.
D'accord.
C'est vrai que le Gabriel Agaï est très actif sur Facebook. Je le vois commenter, répondre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui
poser. Voilà. On essaie. Enfin, ma page est surtout spirituelle. Je parle spiritualité, un petit peu de... Même dans l'actualité politique aussi, des fois je donne des commentaires spirituels.
Le football, non?
Non, jamais.
D'accord.
Bah, et vous?
Je pourrais.
Bon, mais non, vous faites pas de, il y a pas de commentaires. Philippe Versel, vous êtes actif sur les réseaux?
Un peu, pas beaucoup. Alors moi, pas personnellement, mais la mission populaire, oui, on a une page Facebook et on essaye de retracer un peu l'ensemble des engagements des 12 postes de la mission populaire en France.
Alors, quels sont les mots que nous avons appris en préparant cette émission, Yacine?
Bon, on a plusieurs mots. Surtout le thème de l'émission aujourd'hui, Philippe. Est-ce que tu nous l'as rappelé?
Non, je ne l'ai pas encore annoncé, donc c'est le carême, puisque les catholiques sont rentrés dans le carême. Voilà, ça dure 40 jours, on va en parler, on va parler du jeûne dans les religions. Le mot carême, Yacine?
En fait, le carême, c'est une période, on entend aujourd'hui le carême ou le ramdam, aujourd'hui qu'on appelle aussi, c'est une période de jeûne et d'abstinence de 40 jours, ça c'est pour les catholiques, que le catholicisme a institué au 4e siècle en référence aux 40 jours de jeûne de Jésus dans le désert. Mmh. En gros, tout à fait. Bon, il y a un autre mot aussi qu'on a appris.
Ah oui, parce que j'ai vu que le nom carême provient de la contraction du mot latin quadragesima, qui signifie 40e. Voilà.
Exactement.
On sait pourquoi il y a 40 jours, Gabriel?
Oui,
Gabriel.
En fait, alors les 40 jours de Jésus sont une allusion aux 40 jours de Moïse lui-même. Donc, dans un essai. Vous voyez, chaque chapelle essaye de tirer un petit peu pour soi. Donc, les chrétiens, pour récupérer l'histoire biblique, donc ils ont fait jeûner Jésus 40 jours, à l'image de Moïse qui a jeûné lui-même 40 jours au Mont Sinaï, en étant proche de Jésus, de Dieu, pardon, en étant proche de Dieu, pour recevoir la Torah.
Les musulmans utilisent parfois le mot carême pour parler du mois de Ramadan, du jeûne du mois de Ramadan, Ismaël Mounir?
Alors, théologiquement parlant, non. Mais moi, je me rappelle que mon père, paix à son âme, me disait, bon, on va faire le carême.
Oui, parfois, on l'entend encore, hein, ce mot. Deuxième mot, Yacine, moins facile à replacer.
Alors, je vais essayer de le prononcer, la xérophagie. Est-ce que vous savez ce que c'est?
Non.
C'est bon. Xérophagie.
Ça vient de xéros.
Tout à fait. Donc, c'est une tradition de l'Église aussi primitive qui consiste à s'alimenter exclusivement de pain et de fruits secs pendant le temps qui correspond au carême. c'est aussi un mot, un terme de médecine aujourd'hui qu'on n'a pas pour les adeptes de ceux qui font médecine, qui signifie diète sèche.
Oui, ça ressemble à une diète, hein, ce que j'allais vous dire.
Xérophagie. Donc c'est un mot aussi qui nous a intéressé.
Est-ce que ça parle à quelqu'un ?
Absolument pas. Il faut dire que je pense que vous n'auriez pas dû inviter un protestant parce que les protestants ne font pas ni carême ni jeûne. Donc évidemment, je suis un peu, j'allais dire, la parole extérieure. Et le langage théologique catholique, ce n'est pas mon fort.
Il est vrai que le jeûne en lui-même, les protestants ne le font pas, mais il y a un côté quand même spirituel qui est respecté chez les protestants.
Disons que on s'inscrit dans les traditions des pays dans lesquels on vit. Et ici aussi, il y a une période de carême, alors chez les luthériens plus que chez les réformés, mais il n'y a pas de tradition de jeûne.
Donc moi j'avais une question, c'est dommage qu'on n'ait pas de catholique ici, parce que, alors le carême c'est quoi ? Est-ce qu'il faut jeûner ou est-ce qu'il faut manger, être xérophage ? C'est ça, parce que par exemple, dans les pays, les chrétiens qui vivent dans les pays musulmans, souvent on les voit jeûner pendant le carême, c'est-à-dire qu'ils font un petit peu comme Ramadan pour les musulmans, ils le font à la période de carême, c'est-à-dire il jeûne depuis le lever du soleil jusqu'au coucher, quelque chose comme ça.
L'adaptation.
Voilà, alors est-ce que c'est vraiment chrétien d'origine, ou bien est-ce que le carême, c'est juste s'abstenir de manger des choses riches et manger des choses...
Ça fait partie des origines primitives du jeûne, qui était vraiment s'abstenir du matin au soir. Et ensuite, donc, ça a évolué, je crois, il y a eu des...
Oui, il y a longtemps que ça a évolué, et... En général, c'est-à-dire la tradition veut qu'on demande le carême de jeûner au début du carême et le vendredi saint, le vendredi de Pâques. Mais ça, c'est des traditions catholiques qui se sont petit à petit adaptées. Mais au départ, c'était bien un jeûne.
Et nous, dans la tradition musulmane, il y a une chose qui peut-être n'est pas connue du grand public, c'est que on nous relate le jeûne des chrétiens. D'ailleurs, il y a un terme spécifique, on appelle ça le somme. Alors que le siyam, c'est le jeûne du mois de Ramadan, le siyam, donc l'abstinence, le jeûne. Et on nous parle du somme de Mariam. Mm. Et en fait, il est caractérisé par le fait de ne pas parler. Et donc, dans la tradition musulmane, il est relaté que c'était une des manières de jeûner des chrétiens que nous considérons, nous. On considère Mariam comme une musulmane. Hein. On considère que c'était, on appelle ça le jeûne des gens du livre. Ils ne parlez pas. Donc, alors, je sais pas si vous avez.
Il y a le somme, c'est aussi un mot hébreu, hein, de la racine sadi wa mem, qui veut dire jeûner, justement, de s'abstenir de manger, de boire et d'autres choses.
Et somme, c'est aussi le silence.
Voilà. Par contre, il y a chez nous le jeûne du silence, le jeûne de la parole. C'est-à-dire que non seulement pour rajouter un petit peu de rigueur sur le jeûne, non seulement on s'abstient de manger, de boire et de consommer des choses, mais aussi carrément de parler en dehors des paroles sacrées, c'est-à-dire des paroles de prière et d'études. Mais toute parole qui serait profane, on s'abstient et on considère qu'un jeûne de parole, ça vaut presque 10 000 jeûnes d'abstinence, parce que c'est beaucoup plus difficile aussi.
Il y a un peu ça dans le Ramadan. Hein.
Alors, dans le Ramadan, il y a le jeûne des paroles obscènes. Voilà, des paroles obscènes, des paroles interdites, des paroles futiles, etc. Mais par contre, on peut parler. Il n'y a pas l'interdiction de la parole.
D'accord. Dans le jeûne des paroles dont vous parlez...
C'est interdit, c'est pas interdit. Dans un jeûne normal, c'est pas interdit de parler. Mais on peut rajouter une interdiction sur ça et s'interdire. À ce moment-là, on prend sur soi de dire, voilà, je vais jeûner en plus de la parole.
Le jeûne signifie-t-il la même chose dans toutes les religions ?
On s'aperçoit que non. Moi, j'ai des amis hindous et souvent, quand ils disent ils jeûnent, et puis je m'aperçois qu'ils boivent, par exemple. Donc moi, ça m'a toujours assez étonné, parce que, alors, dans le judaïsme, il y a 5 choses qui sont interdites. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que là, quand on enregistre l'émission mardi soir, mais donc demain, mercredi, c'est le jeûne d'Esther, donc c'est le jeûne de la veille de la fête de Purim qui arrive jeudi.
C'est un des 6 jours
jeûner chez nous, obligatoire.
En plus de Yom Kippour.
Obligatoire, voilà, obligatoire. Et donc, on jeûne, on s'abstient de manger, de boire, de s'enduire. S'enduire, à l'époque, on s'enduisait d'huile. Donc, on considère que c'est une sorte de nourriture par la peau. Donc, on s'abstient. Dans certains jeûnes aussi, on s'abstient évidemment de relations intimes. Et par exemple, les jeûnes tristes, comme le 9 Av ou Yom Kippour, on s'abstient aussi de chausser des chaussures. Donc on est obligé de marcher pieds nus. Ou on considère que les chaussettes ou les chaussures en toile sont pas des vraies chaussures. C'est le cuir qui est une vraie chaussure. Donc on est aussi déchaussé. Voilà, c'est ça le jeûne. Et c'est la majeure. Il y a deux sortes de jeûne. Il y a le jeûne court qui est du lever du soleil à peu près, hein, enfin l'aube, jusqu'au coucher du soleil, un peu plus loin, jusqu'à la sortie des étoiles. Et il y a le jeûne long qui part depuis la veille. Donc en général, les jeûnes dans lesquels on déchausse sont des jeûnes qui partent depuis la veille et donc depuis le soir. Donc on jeûne à peu près un petit peu plus que 24 heures.
Alors par exemple, le jeûne d'Esther, c'est un jeûne court.
C'est un jeûne court, entre guillemets. Voilà.
D'accord. Donc quels sont les autres jeûnes courts?
Les jeûnes courts, vous avez le 10 Tammuz, le 17 Tammuz, le 10 Tevet, etc. Enfin, c'est des dates anniversaires qui sont en général liées.
Moi je suis en première année.
Je me rappelle donc, à quel point je suis ignorant. Là.
Ouais, là je suis en première année, donc il faut expliquer.
Alors, il y a un calendrier qui est un calendrier juif, et donc nos mois sont des mois lunaires, hein, comme dans l'islam, ça correspond à la lune exactement. Ils ont des noms. En tout cas, dans le calendrier juif liturgique, il y a au minimum 5 dates jeûnées. Alors, la plus connue, c'est Yom Kippour, le jeûne du grand pardon, qui est le dixième jour. Voilà, c'est un jour long, c'est un jeûne long, qui est le dixième jour après Rosh Hashanah, après le nouvel an, qui correspond à Ashura, l'origine de Ashura, c'est ça, hein, le dixième, c'est Yom Kippour. Vous avez après.
Yom Kippour, donc, c'est.
C'est le dixième jour, c'est le jour du grand pardon.
D'accord.
Celui-là est marqué dans la Torah.
Plus connu, on va dire, par tout le monde.
Voilà, les autres jeûnes sont des jeûnes qui ont été rajoutés dans la tradition parce que des événements assez tristes sont arrivés à la communauté juive. Donc tout ce qui est lié à la destruction du temple et à l'exil, ce sont ce genre de jeûnes. Donc le 9 Av, par exemple, c'est l'anniversaire de la destruction du temple à Jérusalem, des deux temples, parce que ça s'est répété à la même date dans l'histoire. Avec d'autres malheurs, vous avez le 10 Tevet, vous avez le 17 Tammuz, vous avez le Som Gedalia, le jeûne de Gedalia, qui est le lendemain du Rosh Hashanah, du Nouvel An aussi.
Il y en a cinq
en tout. Et dans l'année, et celui d'Esther, qui lui n'est pas un jeûne vraiment triste, parce qu'il aboutit à une joie, qui est le fait d'avoir survécu un décret d'annihilation et d'extermination par le roi Assuérus à l'époque des Perses. Donc c'est un jeûne joyeux, si vous voulez, ça commémore un événement joyeux, bien que ce soit un jeûne. Ceci dit, traditionnellement, on jeûne aussi le lundi, le jeudi, voilà, tous les jours de l'année.
Comme les musulmans.
Voilà, ou peut-être les musulmans comme les juifs.
Ouais,
parce que nous, c'est très ancien, hein, nous, même avant la date de l'apparition de l'islam, c'était quelque chose qui était connu. Donc ça s'appelle Sheni ou Hamishi, Sheni le deuxième jour. Ok, lundi.
Quand on dit comme, ça implique pas de hiérarchie.
Oui, c'est ça. Oui, mais j'ai bien compris, Ismaël. Mais c'est pour nos auditeurs, pas que. Voilà. C'est-à-dire que, bien évidemment, notre Dieu, c'est le même, et donc il nous inspire de la même manière. Et je pense que c'est, le deuxième et le cinquième jour de la semaine, c'est-à-dire lundi, jeudi, aussi, on jeûne aussi.
Ben, je suis resté, moi, encore sur les autres jours de jeûne. Quel est leur statut? Est-ce que ce sont des jeûnes qui sont obligatoires ou est-ce que ce sont des...
Obligatoires, je parle de jeûnes. Les cinq jeûnes sont obligatoires, lundi, jeudi sont facultatifs.
Bien. On parle du jeûne dans les religions. Ont-ils la même signification? C'est Spicuni, jusqu'à 11h sur Beurre FM.
Spicuni revient dans un instant. Beurre FM, 10h-11h, Spicuni avec Philippe Robichon.
Spiritualité, culture et harmonie, et nous parlons d'une pratique qui connaît un intérêt croissant dans la société en général et qui est de plus en plus suivie dans les religions, c'est la pratique du jeûne. Avec nos invités aujourd'hui, le rabbin Gabriel Agueil qui est avec nous, Yacine Ilmi qui est là, le pasteur Philippe Versels qui est là, et puis Ismaël Mounir. Alors on parlait des différentes significations du jeûne dans les religions, mais la pratique du jeûne est antérieure, hein, aux religions. D'où vient-elle, Ismaël Mounir?
Alors là, moi, je vous me posez une colle, je ne sais pas du tout.
C'est pas, d'où ça vient? Qui sont les premiers qui ont jeûné? D'où ça vient le jeûne?
Je pense que dès que l'être humain est apparu, il y a le jeûne, parce que c'est une manière d'offrir quelque chose à Dieu. C'est-à-dire le fait de ne pas boire, on offre, c'est comme si on offrait son sang, et le fait de ne pas manger, c'est comme si on offrait sa graisse. Et donc, plutôt que de tuer un animal qui n'a rien demandé, on sacrifie une partie de soi. Et je pense que c'est beaucoup plus moral déjà.
Après, le jeûne, c'est vrai que c'est à la mode aujourd'hui. Il y a plein de personnes qui jeûnent pour des raisons médicales, spirituelles, mais ce n'est pas forcément motivé par l'envie de respecter une tradition religieuse. Et j'entends souvent dire que, en fait, le corps de l'être humain est plus fait pour supporter le jeûne que pour supporter la suralimentation. Et que quand on regarde les civilisations antérieures, eh bien, dans leur manière de se nourrir, ils pouvaient avoir des longues périodes de disette. Donc, quelque part, le jeûne, il était un peu imposé par les conditions de vie.
Enfin, il y a une quinzaine d'années, on n'entendait pas du tout parler des effets bénéfiques du jeûne dans pour l'organisme, par exemple.
Il y a une quinzaine d'années par rapport à la période durant laquelle a existé l'humanité, c'est rien, quoi. C'est une heure.
Non, mais aujourd'hui, tout le monde parle du jeûne. Hein. Tout le monde dit, voilà,
oui, parce que
jeûner, c'est bon pour la santé.
Je pense que, sincèrement, il y a des gens qui en découvrent les vertus. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société où il y a une surconsommation alimentaire. Et en plus, on mange mal. Et je pense que toute personne qui a un moment... De toute façon, moi, j'avais des amis qui aimaient bien les plaisirs de la bouche. Et quand ils avaient fait des excès, qu'est-ce qu'ils disaient ? Bon, demain, je me mets à la diète. Donc, c'est quelque chose qui coule de source.
Juste par rapport aux origines du jeûne, en faisant quelques recherches, ce qui est dit, après, il faut confirmer, c'est que pour des raisons médicales ou spirituelles, le jeûne est connu depuis l'Antiquité. Mmh. Voilà, notamment aussi dans la tradition bouddhiste, ou bien avant. Donc, voilà.
Dans l'islam, le jeûne est un pilier. C'est un des cinq piliers.
C'est un des cinq piliers de l'islam. Le jeûne du mois de Ramadan.
Le jeûne du mois de Ramadan,
30
oui.
jours ou 29 jours. On jeûne tout le mois lunaire. Le mot Ramadan, en fait, c'est le nom d'un mois lunaire. Alors, on dit que le jeûne a été institué lors de fortes chaleurs. Et le Ramadan, en fait, ce nom viendrait de là, en fait. C'est la forte chaleur des pierres. Et on dit, en fait, que le mois de Ramadan vient rafraîchir les péchés, en fait, que l'homme qu'il a effectué. Après, si on pousse un petit peu plus loin les recherches, on s'aperçoit qu'en fait, le jeûne, c'est une célébration spirituelle pour honorer la descente du Coran. Puisque les versets où Dieu ordonne le jeûne, on nous relate que « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » le mois du Ramadan, le mois au cours duquel le Coran a été révélé. Alors ensuite, le jeûne, il y a un aspect, on va dire... théorique, pratique, c'est-à-dire on n'a pas le droit de boire, pas le droit de manger, de telle heure, c'est-à-dire du début de l'aube. Donc ça correspond à la prière du Fajr, la première prière que les musulmans font en se réveillant, et jusqu'à la prière du coucher du soleil. Donc en été, c'est à peu près de 4h du matin jusqu'à 22h. Donc c'est
17-18 heures,
voilà,
ça fait
une bonne
ça
journée
fait,
de jeûne.
Ouais.
Et si vous habitez en Suède, c'est pas mal. C'est au moins 22 heures de jeûne.
Au pôle Nord.
D'ailleurs, ils jeûnent beaucoup en Suède.
Et en fait, le jeûne, donc il y a cet aspect-là, mais il y a un autre aspect qui, je pense, aujourd'hui, il faut essayer de raviver cette signification, on va dire, dans la conscience musulmane, c'est que le jeûne, il doit d'abord se vivre spirituellement parlant. Et d'ailleurs, l'intérêt de parler du jeûne des chrétiens dans le Coran, avec le mot saum, c'est que le contexte dans lequel le verset est évoqué, il fait référence à Maryam. Et alors, je ne veux pas me lancer dans une explication parce que ça pourrait prendre un peu de temps, mais brièvement, en fait, Maryam, elle est dans des difficultés et Dieu lui dit « Jeûne et je vais m'occuper de tes problèmes ». Et en fait, jeûner ici, ça signifie s'orienter vers Dieu. C'est-à-dire, occupe-toi de Dieu, pense à Dieu, invoque Dieu, tourne-toi vers lui, confie-toi à lui, oublie un petit peu les tracas de la vie quotidienne. Occupe-toi plus de ta spiritualité et t'inquiète pas, tout ce qui relève de ta vie terrestre, de ton corps, Dieu va s'en occuper. Donc quelque part, c'est un peu un rééquilibrage. Un mois dans l'année, on apprend un petit peu à délaisser les considérations du corps, on les met un petit peu de côté et on essaie d'aller chercher autre chose, de se recentrer sur soi et de focaliser sur un aspect de notre personne qu'on a parfois tendance à négliger, qui est notre âme. Voilà.
On n'entend pas souvent parler de ce jeûne de Maryam, ou c'est moi.
Le jeûne de Marie, ouais. En fait, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup.
Alors là, j'ai fait une vidéo sur YouTube, le sujet, qui s'appelle « Le jeûne de Maryam ». Et en fait, c'est un extrait d'un sermon du vendredi que j'avais fait dans une mosquée.
C'est là où elle demande, elle prend serment qu'elle ne parlera ni à un homme.
Alors en fait, donc, rapidement, elle vient de mettre au monde Jésus, d'après la tradition coranique. Et donc, elle est très inquiète puisque c'est une naissance miraculeuse. Et donc, elle va devoir justifier le fait qu'elle a mis au monde un enfant sans père. Donc, elle est inquiète et Dieu lui dit, donc, bois et mange. Donc, elle est à côté d'un palmier, puis il y a un petit ruisseau. Et Dieu lui dit, prends des dattes fraîches et donc, bois, mange. Et que ton œil se réjouisse pour le bébé que tu viens de mettre au monde. Et si les gens te disent quelque chose, dis-leur, Kouli, inni nadartu lirrahmani sauma, falan ou kalima liyom insiya. Dis-leur, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je n'adresserai donc par conséquent la parole à aucune créature. En fait, dis-leur, fais-leur comprendre par geste que tu as voué un jeûne au tout miséricordieux. Et ici, saum lirrahman, c'est-à-dire que je me réserve exclusivement à Dieu. Donc, je n'ai pas le temps pour vous, etc.
Yacine, alors une question sur les protestants.
Oui, en fait, au début de l'émission, on avait le pasteur Philippe nous a dit que dans la tradition protestante, il n'y avait pas ce modèle que l'on connaît chez les catholiques du carême où il fallait juste manger fallait pas manger de la viande pendant cette période. Et c'est pas le cas chez les protestants. Donc je voulais avoir un peu plus d'informations parce que c'est vrai que ça peut nous paraître étonnant.
Moi, je l'apprends. Sincèrement, je ne le savais pas.
Déjà, au niveau de la tradition chrétienne, d'une façon générale, je pense que le fait de ne pas manger, de jeûner, rappelle des choses très différentes les unes des autres. C'est-à-dire que c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, ça rappelle le texte où Jésus va 40 jours dans le désert, et c'est ça qui a instauré le carême. Mais c'est aussi le vendredi, c'est pour ça que dans toutes les cantines, on mange encore du poisson. Plus trop maintenant. Ouais. Pourtant, c'est bon le poisson, mais on peut le manger même les autres jours. Mais,
c'est vrai, on ne mange plus de poisson à la cantine le vendredi
C'est moins systématique.
C'est moins systématique à cause de toutes ces histoires, oui, etc. Donc,
on ne veut pas que ça soit un signe de chrétienté.
Ou aussi, c'est parce que beaucoup de familles musulmanes inscrivaient systématiquement les enfants à la cantine le vendredi.
Le vendredi, parce qu'il y avait du poisson.
Du coup, maintenant, ils jouent sur le suspense, comme ça.
Mais c'était pour rappeler la mort de Jésus sur la croix. Donc et c'est vrai qu'il y a des sens, à la fois un sens de pénitence, à la fois aussi, si je le comprends bien, au niveau du Ramadan, une invitation à la générosité, au lien avec l'autre, une disponibilité aussi à Dieu, donc un sacrifice, une pénitence, une disponibilité, et effectivement... tout le courant aussi ascétique, qui est un courant de retrait, des relations.
Alors, on explique ce que c'est qu'un courant ascétique pour tout le monde.
Ce sont tous les courants, en fait, mystiques qui amènent à un retrait, j'allais dire, de la vie quotidienne. Ça prend des aspects très différents les uns des autres. On parlait tout à l'heure du jeûne de parole, mais c'est vrai que dans la tradition chrétienne, il y a aussi, effectivement, des ascètes, donc des moines qui se retirent complètement de toute parole, qui sont dans le silence, etc. Donc tous ces mouvements qui sont, en gros, pour essayer de se mettre dans une grande disponibilité à la présence de Dieu, et ça prend des aspects très différents. Donc le jeûne lui-même n'a pas une signification très précise, ou plutôt a de multiples significations, et c'est pour ça aussi que la façon dont il est vécu est vécue de façon différente. Alors, j'ai pas parlé des protestants encore, mais c'est un peu compliqué parce qu'en fait, c'est une question de fond, c'est pas seulement sur le jeûne, c'est-à-dire qu'au fond, au niveau du protestantisme, il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a aucun rite, il n'y a rien de sacré, c'est-à-dire ni de lieu, ni de personne, ni de temps sacré. Et la relation à Dieu est une relation, fondamentalement, une relation de conscience. Martin Luther disait, l'Église, c'est moi, ma Bible et Dieu, et ma conscience. Quand il disait moi, c'est ma conscience, ma Bible et Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à chacun d'écouter la parole, d'écouter la présence de Dieu dans sa vie, d'écouter et de comprendre ce qu'il a à faire, ce qu'il a à vivre et ce qu'il a à mettre en œuvre. Après, c'est d'ailleurs un peu le problème des églises protestantes qui, du coup, on dit quand il y a deux protestants, il y a trois églises, parce que chacun, chacun fait ce qu'il veut.
Ça fait du patrimoine, en tout cas, au moins.
Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de pôle, en quelque sorte, qui dicte le dogme et qui dicte la morale. Et c'est à chacun, au fond, de se mettre dans la suite de cette parole et sur ce chemin. Et du coup, c'est vrai que toutes ces traditions qui sont des traditions rituelles et des traditions communautaires sont très peu présentes. Alors, quelquefois, elles le sont un peu par tradition, un peu parce que on calque ce qui se fait autour dans la culture dans laquelle on est, mais c'est fondamentalement pas, j'allais dire, une attitude protestante.
D'ailleurs, on reçoit régulièrement nos amis adventistes qui respectent, selon d'une certaine manière, le Shabbat, qui est un rite.
Alors, ça illustre parfaitement ce que je viens de dire, c'est-à-dire quand on parle des protestants, on parle jamais de tous les protestants, et qu'il y a toujours toutes les exceptions. Et effectivement, il y a un certain nombre de traditions protestantes qui sont beaucoup plus légalistes, qui sont beaucoup plus rituelles, et qui sont et notamment les adventistes, qui en gros veulent suivre un certain nombre de directives, de lois, de préceptes de la Torah.
Quels sont les autres jours jeûnés, Ismaël Mounir, chez les musulmans ?
En islam, alors il y a le lundi et le jeudi. C'est des jeûnes surrogatoires. Il y a le jour de Ashura, qui est le neuvième jour du mois de Muharram. C'est pour commémorer lorsque Dieu a sauvé Moïse du tyran pharaon.
Donc là, c'est le neuvième jour.
Ça peut être jeûné, c'est le neuvième jour, voilà. Et accompagné du dixième ou le huitième, neuvième jour. Plutôt le dixième jour, soit c'est le neuvième et avec le dixième, soit le dixième et le onzième, ou les trois. Ensuite, il y a le jour de Arafah, qui est le neuvième jour de Dhul Hijjah. Le lendemain, c'est la grande fête du sacrifice. Donc ce jour-là est considéré comme un jour de fête pour ceux qui sont au pèlerinage.
Donc eux ils jeûnent aussi.
Donc ils ne doivent pas jeûner. D'accord. Parce que quand c'est une fête, on ne jeûne pas en islam. Et pour permettre aux gens qui ne sont pas au pèlerinage de s'associer à eux, on leur permet de jeûner. Qu'est-ce qu'il y a encore comme jour de jeûne? Là, je vous ai cité, on va dire, les principaux jours.
Ça, ce sont les jours obligatoires et il y a les jours surrogatoires. Alors,
le seul jour obligatoire en islam, c'est le mois de Ramadan. Tout le reste, c'est des jours qui sont surrogatoires.
Il n'y a pas les jours après Ramadan, le mois qui vient après ou...
Les six jours de Shawwal. Six jours. Il y a plein de jours. On peut jeûner trois jours par mois. On appelle ça les jours blancs. C'est le milieu du mois lunaire. Donc il y a pas mal de jours à jeûner pour ceux qui veulent, mais c'est surrogatoire, chacun fait en fonction de... D'ailleurs, les maîtres spirituels souvent disent qu'il est mieux d'être régulier. Donc par exemple, on peut choisir un jeûne et puis s'y tenir régulièrement. Ce qui est meilleur, ce qui est mieux, c'est ce qui est fait régulièrement.
Parce que ça entretient l'organisme, donc l'organisme est habitué.
D'une part, on dit que lorsqu'on a l'habitude de faire une chose, le jour où on n'est plus dans la capacité de le faire, alors... Ce sera comptabilisé pour nous comme si on l'avait fait, en fait.
Ça me fait penser, Philippe, on a entendu parler de mystique, de maître spirituel. Ça fera l'office d'une émission bientôt sur la mystique dans les religions. Et donc vous serez bien sûr les bienvenus sur ce sujet.
On parle du jeûne dans Speak Uni aujourd'hui, puis on verra quelle est la pédagogie du jeûne.
Speak Uni revient dans un instant. Peur FM, 10h-11h, Speak Uni avec Philippe Robichon.
Les catholiques jeûnent pendant 40 jours, c'est le carême. On parle du jeûne aujourd'hui avec nos invités, Yacine autour de nous, le rabbin Gabriel Haguet qui est là, le pasteur Philippe Versels et Ismaël Mounir. Tiens, qui a une petite blague interreligieuse? Ismaël Mounir.
Alors, une blague interreligieuse, la mienne elle n'est pas interreligieuse.
Ben, allez-y.
On dit que c'est un jeune garçon qui rentre dans une mosquée, c'est un converti, et il fait la prière. Et là, il y a deux anciens qui sont assis au fond de la mosquée en train de le regarder. Et ils disent, regarde, c'est un converti, regarde comment il prie, comment il est assidu, comment il fait la prière, il a appris l'arabe, il lit le Coran, et puis il est tout le temps là. Et il y en a un qui dit, j'aimerais bien avoir un fils, un gendre comme lui. Et à un moment donné, le jeune, il se baisse, parce que dans la prière, on s'incline, il s'incline, il les regarde, et il leur dit, et je jeûne aussi tous les lundis et tous les jeudis.
Sachant que dans la prière, on n'a pas le droit de parler.
Exactement.
Tiens, Gabriel Haguet, toujours pas de...
Non, oui, j'en ai beaucoup.
Mais il faut partager, parce
jour,
que...
C'est-à-dire qu'un jour de jeûne, justement, où on doit prier, c'est un juif, un chrétien, un musulman, il joue aux cartes. Et donc c'est pas le mieux, quoi. Donc ils sont à l'armée en plus. Et le commandant arrive, débarque comme ça dans la chambre où ils sont en train de jouer aux cartes. Et donc tout le monde cache les cartes, bien évidemment. Et donc il se tourne vers le juif et dit alors tu joues aux cartes? Il dit non, moi je jure sur la Torah, je ne jouais pas aux cartes. Il se tourne vers le musulman et dit toi tu joues aux cartes? Il dit non, je jure sur le Coran, je ne jouais pas aux cartes. Il se tourne vers le chrétien et dit toi tu joues aux cartes? Il dit comment tu veux que je joue tout seul?
Bien. Est-ce qu'il y a des jeunes interreligieux? On parlait de blagues interreligieuses, mais est-ce qu'il existe des jeunes où tout le monde
existe? Il existe des initiatives interreligieuses spirituelles dans lesquelles on peut faire des retraites ensemble. C'est-à-dire que on va se retirer pour méditer, pour prier, et en même temps, on peut tout à fait jeûner ensemble. Moi, j'ai déjà organisé ça dans certaines de mes retraites interspirituelles, qu'on fait un jour de jeûne ensemble. Et ça arrive aussi dans pas mal d'associations de dialogue interreligieux, dans lesquelles pendant Ramadan, par solidarité avec les musulmans, tout le monde jeûne. On fait un jour de jeûne et puis on fait la coupure du jeûne tous ensemble le soir. Voilà.
Alors, Ismaël Mounir, ouais. Ou alors, Philippe.
Non, je dis, c'est vrai ça. qu'il y a quelques initiatives où le jeûne est utilisé, y compris par exemple le CCFD, hein, le Comité catholique contre la faim pour le développement, qui organise des jours de jeûne où, en général, on met le prix du repas pour soutenir une œuvre. Ça, voilà, le jeûne est aussi utilisé comme un geste effectivement tourné vers les autres et un peu marqué par un sacrifice concernant sa propre existence. Mmh.
Et après, dans la tradition musulmane, on rapporte que le prophète, alayhi salam, lorsqu'il est arrivé dans la ville de Médine, il a vu que la communauté juive jeûnait, leur a demandé pourquoi. Et ils lui ont dit, en fait, parce que c'est le jour où Dieu a sauvé Moussa, et donc il a instauré également ce jeûne.
Mais c'est vrai qu'on voit naître un certain nombre d'initiatives, par exemple, de dons de sang interreligieux, et ça commence à se développer. Il n'y a pas beaucoup d'initiatives de ce type. Un jour où, effectivement, on jeûne, on arrête de consommer, on arrête de se tourner vers soi pour se tourner vers les autres ensemble, c'est vrai que ça pourrait être quelque chose qui pourrait symboliquement marquer aussi une dynamique interreligieuse.
Alors les catholiques ont remarqué cette année que de plus en plus, ce qui allait de pair avec le jeûne, enfin avec le carême, c'est le jeûne numérique, qu'on avait commencé à constater aussi pendant le mois du Ramadan.
On avait fait une émission.
C'est le jeûne numérique, mais c'est quelque chose qui, finalement, on se rend compte que les gens associent de plus en plus leur jeûne de nourriture avec un jeûne numérique.
Ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler, n'est-ce pas Philippe, la pédagogie du jeûne.
C'est-à-dire, merci, heureusement que vous êtes là pour la transition.
C'est-à-dire le fait de jeûner pour jeûner, ça amène quoi en fait? C'est-à-dire que on doit récolter des fruits spirituels de cet engagement. Et un des fruits spirituels, c'est le fait de se contenter, se débarrasser du superflu pour revenir à ce qui est l'essentiel. Et on s'aperçoit que l'essentiel tient à peu de choses. Et ça, ça va contre cette culture du consumérisme et de la modernité. Donc s'apercevoir que on peut tout à fait être heureux avec un petit peu d'eau, un petit peu de pain.
Et un iPhone.
Et sans iPhone, c'est ça.
Mais pas de jeûne radiophonique, quand même.
Non.
Ah non, surtout pas.
Surtout pas.
Télévisuel.
Et donc revenir aux essentiels, de manière à se concentrer, en fait, sur notre humanité, sur soi, déjà, apprendre à se connaître. Et quand on se connaît, on ne peut pas connaître Dieu si on ne se connaît pas soi-même déjà, parce que notre nature, elle est quand même divine. On a été créé à son image selon sa ressemblance, hein, comme Bessalmo Kidmuto dans la Torah. Et donc cette image de Dieu qui est la nôtre, il faut arrêter le bruit ambiant, le bruit qu'il y a autour, de manière à se concentrer sur le bruit avec un B majuscule, qui est le bruit de Dieu, qui est cette voix. Comme il est dit dans les prophètes, cette voix de silence fin qui est la voix de Dieu en nous, qui est la nôtre. Et pour ça, il faut jeûner. Donc il faut diminuer les choses. Et ça rejoint un enseignement qui dit quel est le véritable riche? Celui qui se contente de ce que Dieu lui donne, qui est heureux par le don, par le peu que Dieu lui donne. Et en fait, ça permet aussi de partager. Après, on se rend compte que ce qui est superflu, ça peut aller aux autres, etc. etc. Donc ça engage, il y a un engagement spirituel, en fait, du fait du jeûne.
Alors, on a beaucoup parlé, justement, de ce minimaliste. C'est un discours qu'on entend de plus en plus. Mais ce que j'ai observé des gens qui deviennent minimalistes, c'est qu'ils ont moins de choses, mais qu'ils ont beaucoup de choses plus chères. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est vraiment vers cet esprit du minimalisme ou c'est une tendance, mais...
Et pourquoi, en quoi ça poserait problème d'avoir moins de choses, mais plus chères? Parce que si c'est plus cher, peut-être que ça dure plus longtemps aussi. Je ne sais pas, par exemple, si on va parler par exemple d'un intérieur, quelqu'un qui serait minimaliste, il va avoir le strict nécessaire, il va acheter des choses qui lui plaisent et qui peut-être qui coûtent cher. Par contre, il a pour projet de les garder extrêmement longtemps. Donc au final...
Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, c'est ce que je constate, c'est que finalement, beaucoup de gens qui ont été vers ce minimalisme, ont acheté des choses beaucoup plus chères.
Je crois qu'il y a une chose importante, c'est la question de se détacher, savoir se détacher des choses.
Des objets.
Des objets. Moi, j'avais fait une expérience, j'avais reçu mes deux nièces qui venaient de l'Est et ils étaient en vacances chez moi et pendant les deux premiers jours, ils étaient attachés à leur smartphone, téléphone. Et moi, je partais en déplacement à Nantes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris leur téléphone avec moi pendant le déplacement. Et quand elles se sont levées le matin, elles se sont mises à pleurer. C'est-à-dire qu'elles sont dépendantes du truc. Elles étaient en crime. Mon épouse, je me souviens, elle m'avait appelé. Elle me faisait écouter. C'était comme si on leur avait enlevé un cœur ou un rein. Et je crois qu'aujourd'hui, le gros problème qu'on a dans cette société très matérialiste, capitaliste, c'est être attaché aux choses.
C'est plus que de l'attachement, c'est de l'addiction de nos jours. Ce qui est beaucoup plus grave.
Aux objets. Hein.
Ouais.
Est-ce que vous constatez autour de vous que les gens jeûnent plus aujourd'hui? Ismaël Mounir, est-ce que chez les musulmans, il y a une résurgence du jeûne, une grande pratique?
Je ne sais pas. Par contre, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, on nous invite à changer notre fusil d'épaule par rapport au jeûne. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, le jeûne du mois de Ramadan s'est transformé un petit peu en une espèce de folklore. Où en fait, il y a une privation la journée pour passez-moi l'expression, s'éclater le bide le soir. Quoi. Donc, si le jeûne, ça se transforme simplement en fait de sauter un repas pour faire la fête le soir, c'est pas très intelligent et surtout, c'est qu'on passe à côté des vertus du jeûne. Par contre, là, je pense qu'il y a une évolution où de plus en plus, on entend dans les mosquées les imams, les professeurs, les théologiens. Même, je me rappelle, j'avais participé, moi, à quelques articles sur Saphir News, où il avait été invité les gens à éviter le gaspillage pendant le jeûne du mois de Ramadan. Donc, je pense que là, il y a le début de quelque chose.
Le message est en train de passer et d'imprimer, surtout. Hein.
Et puis moi, je vois de plus en plus l'ouverture, notamment pendant le mois du Ramadan, cette ouverture à l'autre, pendant ce mois où les gens invitent les voisins à partager des moments.
Ça, je pense que ça, c'est ancien déjà. Moi, j'ai toujours connu ça, en fait. Oui. J'ai toujours connu cette... Je me rappelle même, par exemple, il y a très très longtemps, j'étais jeune, à Stalingrad, pendant le mois de Ramadan, à la mosquée de Dawa, eh bien, c'était toujours l'occasion de partager des repas, etc., la shorba pour tous. Je pense que c'est quelque chose qui était bien ancré.
Avec des non-musulmans.
Oui, même avec des non-musulmans. Je pense que ça a toujours été quelque chose qui a été bien ancré. Le fait de vouloir partager avec l'autre le repas, etc. Justement, il y a tellement d'abondance qu'en fait,
Un événement qui m'avait marqué, et c'est une ville qui est souvent cataloguée, qui est en Belgique, qui s'appelle Molenbeek. Et en fait, chaque année, Molenbeek, que vous connaissez certainement, chaque année, pendant le mois du Ramadan, ils organisent une rupture de jeûne dans l'église de Molenbeek. Donc c'est 800 personnes, ou je ne sais plus combien de personnes de différentes religions qui partagent leur repas ensemble.
Bien, est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on fait un quiz aujourd'hui, Yacine?
Why not?
Bon, je rappelle que vous jouez pour remporter une poupée Shifa. Et c'est l'imam Abdelali Mamoun qui a la clé de l'armoire des poupées Shifa. Donc personne ne la gagne jamais finalement, cette poupée. D'ailleurs, je crois que vous en avez déjà gagné deux, hein,
oui, oui.
Rabbin Gabriel. Première question, Yacine.
Alors, première question qui est assez simple. On va commencer de façon simple. Comment appelle-t-on? C'est un mot, il faut trouver un mot qui signifie, c'est un mot latin, qui signifie ôter la viande, et qui est une période festive qui va bientôt...
Carnaval.
Effectivement.
C'est le carnaval.
Carnet-valet. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Carnet qui veut dire la viande, et valet qui veut dire l'enlever.
Bien. Rabbin Gabriel marque un point.
Ouais, il a gagné trop vite.
Bah, vous auriez trouvé?
Je pense, ouais.
Carnet-valet.
Ouais, d'accord. Bon. Chili con carne.
Là, c'est une période festive qui marque la fin de la semaine des jours charnels et qui est suivie par le mercredi des cendres.
Mardi gras.
Ah, effectivement, mardi gras, ouais, deux points pour le rabbin.
On comprend pourquoi il a une collection de
chiffres. C'est le Ronaldo
du quiz.
Ouais, ouais.
Comment appelle-t-on la nuit la plus sainte de l'année musulmane?
Laylat al-Qadr.
Il me laisse même pas parler.
Excuse-moi.
Je vais être viré à cause de toi.
Il distribue les poubelles chiffres.
Traditionnellement, en tout cas, surtout chez les confréries soufis, ils font ça le 27e jour de la 25e nuit du Ramadan.
Effectivement, donc la nuit qu'on appelle aussi la nuit du doute ou du destin, Laylat al-Qadr, qui est
pas la nuit du doute.
La
nuit de la valeur. De la valeur. Ou la nuit du destin. La nuit du doute, c'est autre chose.
Vous voulez qu'on en parle, Yassine?
Oui.
Tu donnes mis du doute.
Ah non.
Bien. Alors, donc, oui, c'est la nuit de la valeur, de la destinée.
Voilà. Ouais. Là, il a tout le
la destinée, ouais, je voulais dire.
Destinée ou la nuit de la valeur. Voilà. Et il y a une sourate qui s'appelle la sourate Al-Qadr, qui comporte 30 mots. Et le mot Hiya, donc la nuit, elle, c'est le 27e.
Peut-être un des secrets.
J'en dis pas plus. Voilà.
Peut-être un des secrets.
Voilà, on peut dire aussi Laylatul Qadr, c'est 9 lettres, et ça revient 3 fois dans la sourate, et 3 fois 9, 27.
Allez, une autre question, Yassine, on y va.
Dernière question. Ouais, là aussi, on cherche un mot qui est.
La personne ne peut rattraper le rabbin, je vous dis tout de suite.
En plus, là, on va l'aider.
Je me tais, je laisse les autres.
Voilà.
C'est un mot qui désigne une période de privation de nourriture dans la tradition judaïque, privation de nourriture et de boisson à titre volontaire, privé ou public. C'est vrai que c'est difficile, c'était ma question
piège.
Ah, mais là on a besoin de toi, Gabriel.
Oui. Mortification.
C'est ta'anit.
Ça
vient de la racine anaya, inouï, qui veut dire la mortification, l'abstinence, l'ascèse.
D'accord. C'est la traduction du mot, c'est ça?
Oui, ça vient du verset wi'innitem et nafshotechem. Vous assaisissez. Comment tu as dit en français?
La mortification.
Vous mortifierez vous-même. Voilà, donc de là on sort le mot ta'anit, mortification.
Bon, bah écoutez, c'est un grand chelem pour le rabbin Gabriel.
Désolé, mais je voulais me taire pour la dernière question, mais voilà, c'est juste la question, il demande de l'hébreu alors.
Voilà, et une troisième poupée, voilà. Hein, on ira la chercher un jour, on ira attaquer le coffre de l'imam. Merci de nous avoir suivis, et vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Yassine.
Facebook, on a une page qui s'appelle Speak Uni FM, donc vous pouvez trouver... la photo et commenter même l'émission en ligne, sans problème.
Voilà, et vous suivez Ismaël Mounir donc sur les réseaux sociaux, hein, chaîne YouTube, avec beaucoup de vidéos.
En ce moment, je suis à fond, là.
Hein, vidéos, donc le Facebook et l'Insta.
Exactement.
Voilà, on salue le petit nouveau qui est venu nous voir aujourd'hui, le pasteur Philippe Versel. Merci d'avoir été avec nous. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez Speak Uni tous les samedis de 10h à 11h et en podcast sur Beurre FM et l'appli Beurre FM.